On va prier, d'accord? Eh bien, Père éternel, on veut te remercier pour ta sainte parole, Seigneur. Père, on te demande de venir toucher nos cœurs et nous instruire dans tes voies. Viens rafraîchir, Seigneur, à notre mémoire ton histoire. C'est l'histoire de Dieu qu'on lit dans ces pages, Seigneur. Ça nous parle de toi, de ta grandeur, de ta grâce. Oh, combien de ta grâce dans ces deux livres ce matin, Seigneur. De ta patience, de ta bonté. Seigneur, aide-nous à saisir ces choses et à les garder près de notre cœur, dans notre quotidien, dans les épreuves, face aux épreuves de la vie, face aux difficultés, face aux tentations aussi, Seigneur. Aide-nous à tirer instruction de ces choses. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, vous avez les feuilles sur la table à l'arrière. Ce matin, on survole deux livres, le livre de Juges et le livre de Ruth. Si vous êtes intéressé à recevoir par courriel les notes de cours, venez simplement inscrire votre nom et votre adresse courriel lisiblement, s'il vous plaît, après le cours. Je vais le laisser ici sur une chaise en avant. Et si vous ne le recevez pas, bien, il faudra écrire à ce moment-là. Vous allez sur le site web à l'adresse du secrétariat et puis ils vont corriger. Peut-être qu'ils ont juste mal rentré votre adresse courriel. Nous sommes donc à la leçon 7 du survol de la Bible, section de l'Ancien Testament, le livre des Juges et le livre de Ruth ce matin. La semaine dernière, on a commencé la section historique des livres de l'Ancien Testament avec le livre de Josué et on entre dans un deuxième livre, et là vraiment ce sont des moments tranchants, dans le sens que avec Josué c'était la conquête de la terre promise, on prenait possession. La semaine dernière on a parlé de promesses, on a vu les promesses de Dieu s'accomplir, on a vu les promesses de Dieu être fidèles. Dieu est fidèle à ses promesses, il accomplit ses promesses et il leur a donné la terre promise. Maintenant, lorsqu'on arrive au livre des juges, on arrive au terme à peu près de la vie de Josué. Là. Il y a un petit recoupement au début du livre. Mais on arrive au terme de la vie de Josué et le peuple d'Israël va devoir marcher fidèlement dans l'Alliance. Évidemment, ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Si vous êtes familier avec le livre, c'est très, très, très évident. Quelqu'un qui voudrait nous résumer en une phrase le livre des juges? En une phrase. En une phrase, M. Rondeau.
Il n'y avait pas de roi en ce temps-là. Chacun faisait ce qu'il
voulait. Ce n'est pas ton résumé, ça, tu triches. C'est le dernier verset. Oui. Il n'y avait pas de roi en ce temps-là.
Chacun faisait
ce qui lui semblait bon. Excellent. C'est répété à plusieurs reprises. Et c'est le dernier verset aussi du livre. Quelqu'un d'autre? Comment vous résumeriez le livre des juges? Alors, c'est tout à fait vrai. Il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semble bon. Ça ne résume pas tout le livre, parce qu'il manque un élément fondamental au livre quand même dans ça. C'est plutôt, le résumé moral du livre. Comment vous résumeriez le livre des juges? Un mot, cycle, ça peut nous aider. Dans le sens que c'est pas juste l'histoire d'un peuple qui s'est livré de plus en plus au péché et qui a fait ce qui lui semble bon. C'est l'histoire d'un Dieu qui intervient dans l'histoire de ce peuple-là, dans la vie de ce peuple-là, et qui vient à son secours à de nombreuses et nombreuses et nombreuses reprises. Et donc, c'est ce cycle-là qui se répète à plusieurs reprises où Dieu intervient et fait grâce. Donc, Dieu est trouvé fidèle à l'Alliance, à ses termes à lui de l'Alliance, et Israël est trouvé infidèle. Maintenant, puisqu'il y avait une provision de grâce dans cette alliance, bien Dieu va opérer cette grâce-là. Le résumé qu'on a ici, l'incapacité d'Israël à observer les conditions de l'alliance, même sous le leadership d'un homme choisi par Dieu pour les délivrer de l'oppression. On pourrait le résumer comme ça aussi, d'accord? Mais avec l'idée de cycle, ça vous rappelle les boucles historiques qui se passent pendant ce livre-là. Et les éléments qui composent ce cycle-là, bien, on va les voir ensemble ce matin. La date de rédaction, bien, c'est pas absolument clair à quel moment est-ce que le livre a été rédigé, même si on a des indices quand même évidents dans le texte. Par exemple, à la fin, lorsqu'il est fait mention, il n'y avait pas de roi en ce temps-là. Ça laisse entendre que ça a peut-être été écrit à une époque où il y avait des rois. Comprenez? Donc, ça aurait été écrit un petit peu plus tard. Et donc, un auteur possible, ça pourrait être Samuel. C'est vraiment très hypothétique, mais disons que ce serait un candidat qui pourrait, qui pourrait passer à l'entrevue pour faire ce travail-là, tant au niveau historique, au niveau de la période, au niveau du moment, au niveau des capacités, au niveau des connaissances, ça pourrait être Samuel qui aurait écrit ce livre-là. Si on veut juste le situer dans le temps, à quelle époque est-ce que ça se situe? Environ 1400 avant Jésus-Christ. Et puis le livre des juges couvre une période entre 200 et 400 ans. Ce n'est pas tout à fait clair. Autour de 300 ans, mais précisément, c'est difficile à dire. Comme je vous dis, il y a un petit peu de recoupement avec le livre de Josué au niveau de la période. Et donc, exactement, c'est difficile à dire. Mais ça va couvrir de la mort de Josué jusqu'à l'avènement du premier roi Saül. D'accord? Pour situer le livre des juges. Donc, c'est la période où il n'y a pas de roi. Et le peuple va suivre l'élan de son cœur, qui n'est pas toujours très bon, qui est souvent même très mauvais. Qui pourrait me décrire le cycle qu'on observe dans le livre des juges qui va se répéter à plusieurs reprises? Qui pourrait nous décrire ça? Pardon? Des défaites? Oui. Maintenant, si je parle du cycle, ce serait quoi les étapes qu'on voit qui se répètent là? On a, comme c'est pas compliqué, on a 12-13 boucles dans le livre. OK. OK, alors si on commence du début, le peuple tombe, s'éloigne de Dieu, va vers d'autres dieux. Ensuite, le peuple crie à Dieu. Dieu envoie un juge pour les délivrer. Le peuple se repent pendant un certain temps, plus ou moins, là, même ça dépend des juges, ça dépend des circonstances, mais il y a une certaine repentance. Et puis, lorsque le juge n'est plus là, on recommence. Et donc, ça va être cette boucle-là, ce cycle-là, désobéissance, cri à l'Éternel, en fait, châtiment de Dieu, je m'excuse, désobéissance, Dieu honore son alliance en châtiant Israël. Israël crie à Dieu. Dieu honore son alliance en faisant grâce à Israël. Il envoie un juge. Le juge vient les conduire dans une délivrance militaire. Et, plus ou moins, pendant la vie du juge, ils vont demeurer fidèles. À la mort du juge, ils vont retourner à leurs anciens péchés. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur qui est identifié dans le livre des juges, qui va occasionner tout cela? Parce que le livre des juges nous propose une cause première à tout ça, au-delà du cœur mauvais de l'homme. Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur? Personne? Steph? Non? Voilà. Voilà, alors la faute qui est déclarée dès le début du livre des juges, c'est qu'Israël n'a pas obéi entièrement à ce que Dieu avait commandé en chassant complètement, en éliminant les peuples, les nations païennes qui étaient là avec leur culte idolâtre. Et donc ça, c'est identifié dès le début du livre comme la cause première de tout ce qui suit. C'est pas à dire qu'Israël se serait pas éloigné de Dieu sans ça, mais ça fait pas partie de la réflexion ici. Au départ, leur faute, c'est qu'ils n'ont pas obéi à la directive de l'Éternel de chasser entièrement ces nations-là qui avaient d'autres pratiques, d'autres dieux qui se livraient à toutes sortes de péchés liés à leur culte, en plus de l'idolâtrie qui était déjà un péché en soi. Et ils ne les ont pas chassés entièrement. Et ça va être déclaré au début du livre. Et donc, c'est le point de départ. Lorsque je m'en vais vers le livre des juges et que je veux réfléchir à une application personnelle dans ma vie, je commence par le point de départ. Lorsque j'accompagne des gens qui luttent avec des péchés, puis on veut travailler sur ces choses-là, une des premières questions que je leur pose, c'est « Est-ce que tu veux, vous allez comprendre que c'est une question un peu rhétorique, mais c'est pour les faire réfléchir, est-ce que tu veux que je t'aide à te libérer d'un péché dont tu détestes les conséquences ou est-ce que tu veux consacrer ton cœur à l'Éternel comme le temple de l'Éternel devait être consacré entièrement? Lequel des deux tu veux? » Je répète ça, est-ce que tu veux que je t'aide à chasser un péché de ta vie dont les conséquences sont extrêmement désagréables, parce que ça t'amène de la culpabilité, parce que ça a des conséquences financières, n'importe quoi, relationnelles dans ta vie, peu importe. Est-ce que tu veux que je t'accompagne pour t'aider à te débarrasser de ce péché-là? Ou est-ce que tu veux consacrer ton cœur en entier et inviter l'Éternel à chasser toutes les idoles du temple? Vous comprenez? C'est l'histoire ici du livre des juges. Et c'était déjà l'histoire d'Israël avant. Si vous vous rappelez dans Josué, on l'a vu ensemble la semaine dernière. Je veux dire, quand Moïse sort d'Égypte, il exhorte le peuple à abandonner les dieux qu'ils avaient adoptés en Égypte, parce qu'ils étaient devenus, on pourrait dire, polythéistes. D'accord? Oui, ils vouaient un culte à l'Éternel, mais ils avaient ajouté d'autres dieux, plusieurs d'entre eux, qu'ils avaient adoptés chez les Égyptiens. Et Moïse les met en garde. Il leur dit, maintenant, débarrassez-vous. On arrive au début de la conquête. Josué va faire le même rappel. À la fin de la conquête, Josué va à nouveau faire le même rappel avec la nouvelle génération, conscient que ça ne s'est jamais fait entièrement. Et dans le fond, Israël, en entrant dans la terre promise, lorsqu'ils doivent se prendre en main, dans cette période des juges, va juste continuer à faire la même chose de manière plus explicite. C'est-à-dire que là, c'est plus simplement l'idole qu'ils ont traînée d'Égypte puis qu'ils gardent dans leur maison, c'est qu'ils vont aller contracter des alliances avec ceux qui vouent ces cultes-là. Et donc, ils vont consommer davantage les péchés rattachés à cette idolâtrie et tout ça. Et donc, lorsque j'aborde le livre des juges, puis que je veux faire une réflexion personnelle, je dois commencer par la conséquence première de toute cette problématique-là, c'est que Israël n'a pas été fidèle pour faire le ménage en entier. Et tôt ou tard, ça vient te chercher. Et donc, une des réflexions que moi je retire toujours, personnellement, c'est une prière. « Seigneur, viens faire tout le ménage, je veux garder rien, je ne me garde pas un anane de péché. » Je ne me garde pas un petit nanane de péché dans son petit coin qui me permet de temps en temps aller me reposer avec ces petits péchés-là. Ce n'est pas ça mon objectif. Viens faire le ménage au complet. Parce que je sais que ça va me ramener là d'où je veux sortir. D'accord? On voit ça au début du livre des juges. On peut regarder juste les deux premiers chapitres qui servent d'introduction. Lorsque vous voulez regarder une structure du livre, là, j'aurais dû peut-être mentionner ça déjà, une structure du livre au point 4 dans les notes, mais vous avez... Au départ, les régions inoccupées, on voit les cycles sont expliqués, ils sont présentés au tout début du livre, puis on entre dans ces cycles-là ensuite, où on va voir les juges qui sont énumérés avec leur petite histoire à chacun d'entre eux. Et puis, à la toute fin, il va y avoir encore une conclusion qui va revenir, qui va dans le même sens, d'accord? On va juste aller au chapitre 2. Verset 1, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous. Mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. » Est-ce que ça vous rappelle la parole de Josué à la fin du livre de Josué, lorsque Josué dit « Choisissez si vous voulez servir l'Éternel ou si vous voulez servir les dieux des Égyptiens ou les dieux des peuples environnants. » Tu as presque l'impression que Josué est en train de dire « Regardez, vous avez des options ici, je peux vous les présenter, je sors le catalogue. » Et donc, il y a une espèce d'ironie très forte, un sarcasme très fort de la part de Josué qui dit « Si vous ne choisissez pas l'Éternel, il y a beaucoup d'autres options, c'est à vous de choisir. » Mais évidemment, la seule bonne réponse, c'est de choisir l'Éternel. Ici, Dieu est incisif de la même manière. Et il dit au verset 3, « J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous. Je suis avec vous si vous voulez les chasser. Vous ne voulez pas les chasser, je vais les installer. » D'accord? Et donc, je vais les bénir, si je peux dire. Et ils seront une pierre d'achoppement pour vous. Leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun à son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage. Et on va aller au verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Alors les pères ont laissé sur le territoire, des nations païennes qui étaient là et qui allaient devenir une pierre d'achoppement pour leurs fils, pour la génération suivante, puisqu'ils les côtoyaient. D'accord? C'est comme si pendant la période de Josué, pendant la période des anciens qui étaient avec Josué, tant que les leaders étaient là, il y avait une certaine contenance qui venait avec ça. Lorsque les autres sont partis, l'invitation à pécher est toujours présente. Les peuples sont là. Et donc, leurs fils vont aller vers ces dieux-là et vont aller jusqu'à traiter alliance avec eux. Verset 11, « Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte. Ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils étaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. » Alors l'Éternel est activement contre Israël. Et en ceci, il est fidèle à son alliance. En ceci, l'Éternel est en train d'honorer son alliance, oui.
Mais on voit que les anciens, il n'y avait pas de Dieu.
C'est probable, c'est probable. Le commentaire, c'est qu'on voit que les pères n'avaient pas enseigné à leurs fils à suivre l'Éternel. C'est probable. C'est pas mentionné, mais bon, ça... Oui. Ah oui, tu as raison. Oui. Ne connaissaient pas l'Éternel. Pardon? Oui, c'est ça. C'est ça aussi. C'est l'expérience des délivrances qu'ils n'avaient pas vues, là. Fait qu'est-ce qu'ils n'avaient rien enseigné? Disons qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel comme ceux qui avaient vu Dieu intervenir en leur faveur avaient connu l'Éternel. Maintenant, c'est probable aussi qu'ils n'avaient pas du tout communiqué. Ce qui va être le premier élément d'occasion de chute, c'est vraiment la tentation qui est là de tous ces dieux-là qui sont présents autour d'eux aussi. Et donc, Dieu va être fidèle à son alliance en châtiant Israël. Dieu est juste en train d'honorer son alliance. Maintenant, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, et là, je regarde vos visages, la plupart d'entre vous, vous êtes assez familiers avec l'ensemble des Écritures, je crois. Mais pour certains d'entre vous, si vous arrivez dans ces livres-là, le livre des Juges est très, très dur. Hein? C'est très violent. D'accord? Le livre de Josué était violent aussi parce qu'on a des descriptions de peuples qui sont massacrés. Il y a des solutions qui sont assez effrayantes. Et de lire ces choses-là, ça peut nous amener à dire, « Ouais, mais ça, c'est le Dieu. » Comme vous savez, le réflexe qu'on a, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Ce sont les violences dans l'Ancien Testament. Mais il n'y a personne qui a parlé du jugement éternel, de la damnation éternelle comme Christ l'a fait. Et donc, tout ça... Que ce soit les châtiments de Dieu, que ce soit les peuples qui sont éliminés, c'est simplement des préfigurations du jugement éternel qui attend l'humanité. D'accord? On n'est pas devant une option complète de dire, ben, je vais suivre l'Éternel ou je ne suivrai pas l'Éternel. Dieu nous laisse ce choix-là, mais ce n'est pas sans conséquences. Les conséquences vont venir avec. D'accord? Et donc, ceux qui décident de ne pas marcher avec l'Éternel seront damnés pour l'éternité. Et ceux qui décident de marcher avec l'Éternel seront en la présence de Christ pour l'éternité, en présence de Dieu pour l'éternité. Et c'est ça qu'on trouve ici. D'accord? Alors, je vous pose la question comme ça. Les châtiments de Dieu, lorsque on lit ça, là, je lis, « Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. » Est-ce que c'est une grâce de Dieu ou ce n'est pas une grâce de Dieu? Oui. Mm-hmm. Oui, oui. Et si, alors la réponse de monsieur, c'est que c'est une grâce de Dieu dans le sens que l'Éternel veut les ramener à lui et ça va se passer par des conséquences. Et si Dieu n'avait pas décidé d'être gracieux envers eux, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ils auraient livré eux-mêmes. Ils auraient dit, c'est très bien, suivez votre propre voie maintenant. est-ce que ça aurait été la grâce de Dieu? Ça n'aurait pas été la grâce de Dieu. Donc, lorsqu'on arrive dans l'Église, plus tard, Nouveau Testament, discipline ecclésiastique, lorsqu'une Église va vers un individu après l'avoir repris, prié pour lui, pleuré pour lui, encouragé, et décide de le mettre en discipline, soit le priver de la communion du repas du Seigneur, soit le priver de la fréquentation même de l'Église, il est mis en discipline. Est-ce que c'est une grâce de Dieu ou ce n'est pas une grâce de Dieu? Comme un pasteur plus expérimenté m'avait dit, je l'ai cité quelques fois dans la dernière année, il s'en allait, j'étais à une conférence avec lui, le dimanche même, ils allaient mettre en discipline une famille qui était très impliquée dans l'Église, extrêmement présente dans l'Église, des gens proches. Puis j'ai dit, c'est les parties difficiles du ministère pastoral. Hein? Il dit, oui, c'est vrai, mais il dit, on est en train de leur dire d'avance ce que Dieu va leur dire s'ils ne se repentent pas lorsqu'ils vont se présenter devant lui. Et donc, on est en train de leur faire grâce en faisant ça. On leur donne une chance de se repentir. Et donc, chaque fois que Dieu châtie, avant que ce soit le châtiment final, chaque fois que Dieu châtie, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. Parce que c'est une invitation à la repentance. Oui, Suzy. Oui. Alors, Suzy fait le parallèle avec ce que nous, on doit faire avec nos enfants, lorsqu'on doit les corriger, les reprendre, tout ça. Et le parallèle va même jusqu'au point où, là, tous ceux qui ont été parents, vous allez reconnaître ce sentiment-là. Le moment où tu as le goût de dire, « Je décroche. Arrange-toi. » Si vous êtes pas rendu là, vous n'avez pas eu d'ado, là. Mais, OK, le moment où tu as juste le goût comme de dire, « Je décroche. » J'arrête ça ici. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Tu es en train de dire comme l'Éternel, je vais te livrer à toi-même. Tu veux faire le cabochon, fais le cabochon. Maintenant, des fois, ça arrive que c'est intentionnel. D'accord? Des fois, intentionnellement, on va laisser vivre certaines conséquences. Et ça aussi, c'est un jugement. Parce que je ne suis pas là pour le protéger. D'accord? J'arrête d'essayer de le protéger, je le laisse aller, puisqu'il est trop rebelle, je vais le laisser aller vers ses conséquences. On le fait même avec les tout-petits. À différentes échelles, de différentes manières, d'accord? Mais donc, comme parents, on va comprendre le cœur de Dieu qui est ici. Mais lorsque j'insiste, c'est à mon détriment personnel, ça va me faire mal, c'est épuisant, tout ça, d'accord? Et c'est d'aller vers celui qui est rebelle, puis c'est de revenir, puis encore d'être vu comme celui qui s'en vient faire le sermon encore une fois, comprenez? C'est exactement ce que l'Éternel a fait avec Israël à cette époque-là. On entre dans la période des juges, évidemment, et puis ce que Dieu va faire au verset 16, l'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qui avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. On a résumé le cycle. Alors, le cycle, bien, ça va être ça. Ça va être désobéissance, jugement de l'Éternel. Dieu suscite un juge pour venir à leur secours. Et puis, pendant la période du juge, ça va aller. Il va y avoir un certain retour. Et lorsque le juge disparaît, bien, le même cycle va recommencer encore une fois. Quelles sont les leçons? On doit passer au livre de Ruth. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer du livre des juges? Très rapidement, 3-4 leçons. En levant la main rapidement, 3-4 leçons qu'on peut tirer du livre des juges. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé du tout ce matin. Oui? Quelles sont les leçons à tirer? On voit la justice de Dieu et on voit la grâce de Dieu. D'accord? Dans ce livre-là, on voit tout autant la justice de Dieu que la grâce de Dieu. Et lorsque je lis ce livre-là et que je ne vois pas la grâce de Dieu, c'est que je ne comprends pas la grâce de Dieu. Si je ne vois pas la grâce de Dieu dans le livre des juges, il y a des aspects de l'Évangile que je n'ai pas saisis. D'accord? Un des éléments importants, une des leçons importantes, c'est l'importance du leadership. D'accord? Ça, on n'a pas abordé ça. Mais ce livre-là nous parle de leadership, l'importance d'être leader dans mon foyer, dans mon église, là où je suis. J'ai un rôle de leader, j'ai un rôle d'influence et le rôle du leader est déterminant dans la marche du peuple. D'accord? Dans la marche de ma maison, le rôle du leader est fondamental. Et là, je pense aussi aux mères dans le foyer, vous avez un leadership très évident à jouer. D'accord? Très bien, on va passer au livre de Ruth. Le livre de Ruth se passe dans la même période. En fait, ça nous est indiqué au tout début du livre. Ruth 1:1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Alors, ce livre-là se situe dans cette période-là des juges. Comment vous résumeriez le livre de Ruth? Quelqu'un qui peut nous résumer le livre de Ruth. C'est un beau livre. Un livre qui est rafraîchissant après le livre des juges. Non? Quelqu'un qui veut nous résumer Ruth? Oui? OK, un retour vers l'Éternel. OK. Un autre élément? OK, alors la grâce vers les nations. D'accord? On l'a déjà vu apparaître avec Rahab, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, mais la grâce pour les nations, définitivement. Quelque chose d'autre à souligner du livre, qui résumerait le livre. Il y a toute cette idée de rachat qu'on voit apparaître ici, qui est un thème extrêmement important pour le Nouveau Testament, pour notre compréhension du salut. D'accord? L'idée de rachat est incarnée, là, c'est concret, là, cette idée-là. On l'avait vu avec un peuple, on va le voir avec un individu, et on va voir un rachat carrément, justement, d'une païenne, d'une non-juive qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Alors, le thème du livre de Ruth, « Dieu manifeste sa grâce envers des étrangers afin qu'ils soient tout comme Israël en communion avec lui. » On a une histoire, la vie d'un individu, cette histoire-là pouvait se répéter. Et déjà dans cette époque-là, cette histoire-là s'est répétée à des milliers de reprises parce qu'il y a des gens vraiment qui venaient des nations vers Israël. Israël n'était pas engagé dans le rôle qu'ils auraient pu jouer pour faire paraître la gloire de Dieu, mais il y a des gens qui se convertissaient et qui venaient, d'accord, sur toute cette période d'histoire-là. Date de rédaction, bien, c'est indiqué avec le premier verset, c'est pendant la période, pas la date de rédaction, mais la date du déroulement des événements, c'est pendant la période des juges. Maintenant, on a un indice important, on le mentionne dans le petit paragraphe ici, sur la date de rédaction. Le livre lui-même va nous raconter que Ruth fait partie de la généalogie du roi David. Et donc, ce livre-là n'a pas vraiment pu être écrit avant que David ne soit couronné roi. D'accord? Et ça nous indique probablement un début du livre aussi. Un but, je dirais, peut-être un peu plus humain, mais il y avait probablement cette idée de la part de l'auteur de raconter l'histoire de David et monter même avant lui, sa génération avant. C'est le roi David et on va raconter son histoire. Maintenant, dans la perspective de Dieu, ça va aller plus loin que ça parce que c'est la lignée du Messie. Et donc, on voit apparaître dans l'évangile de Matthieu, dans la lignée du Messie, on voit apparaître des païens à l'intérieur. Et Matthieu est très intentionnel pour souligner qu'il y a des païens qui font partie de cette histoire-là. D'accord? Donc, le livre aurait été écrit probablement après le couronnement de David et le récit aurait été rapporté. Encore une fois, Samuel pourrait très bien être l'auteur de ce livre-là. C'était en quelque sorte le prophète attitré à David. Structure du livre, c'est un récit, c'est une narration, alors la structure est assez simple. Séjour au pays de Moab, les choix de Ruth, puisqu'elle décide de rester avec sa mère et Dieu fait grâce à Ruth, d'accord? C'est vraiment une super belle histoire. Quelqu'un qui pourrait nous résumer la loi du rachat? Quelle était la loi du rachat? Comment est-ce que ça fonctionnait? Est-ce que vous êtes familier avec ou vous êtes juste timide? Oui.
Dans l'ordre du rachat, si
Oui. Oui, oui. Alors, ça allait par la lignée, d'accord? Puis il y avait comme des priorités. Et l'idée, évidemment, c'était de prendre soin, d'accord? L'idée, c'était de prendre soin, de pourvoir, et donc de prendre sa femme, sa veuve, la veuve pour épouse, afin de prendre sa famille sous sa protection. C'était l'idée qui était là, qui était présente. Oui. Pardon? Oui, excuse-moi. Oui, qu'est-ce que tu allais dire, Steph? Veux-tu clarifier? Oui, c'est vrai, excuse-moi. 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 Qu'est-ce que tu allais dire, Francis? Oui, c'est ça. Mais ça allait par ordre des aînés, si on peut dire. D'accord? Oui, Suzy. Oui, tous les biens. Il pouvait prendre une deuxième épouse. C'est clair que c'était toléré. C'est clair que c'était toléré. Oui. Oui, oui, oui. Tu veux-tu me rafraîchir la mémoire? Je t'avoue, c'est pas frais. Aux enfants. C'est ça. Oui, oui.
Le droit de rachat, c'est si moi je vends un terrain, je le vends, j'ai un droit de rachat dessus. À un moment donné, je peux le racheter. Puis c'est ça qui est arrivé, ils avaient vendu leur terrain, là, ces gens-là.
Oui, oui.
Là, ils revenaient, puis là, ils disent, ouais, mais là, je reviens, je me ressens à avoir mon terrain. Hein,
puis il prend l'épouse avec.
Le droit de rachat, ah, mais là, la terre appartenait à quelqu'un. Ah, ouais, mais à qui elle appartenait? Ben, elle, là, si tu l'achètes, puis elle a vendu.
C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dit comme dit par Stéphane, ça sonne drôle. Merci. OK, ça, je pense que ça ne rentrera pas dans le micro, de toute façon. OK, merci, Steph. Oui. C'est-à-dire que la femme... Ouais. La femme était vue comme une propriété. Ça serait beaucoup dire, parce que Moïse a mis des prescriptions pour protéger la femme. Je pense que ça serait aller trop loin de dire qu'elle est comme une propriété, mais c'est qu'elle avait des, elle était attachée à cet héritage-là. Et donc, il y avait des implications si tu voulais reprendre cette terre-là pour pouvoir offrir un héritage à ton frère. Oui. Oui, c'est ça. Ce que je ne suis pas certain, là, puis peut-être Steph, si ta mémoire est plus fraîche, tu pourras me corriger, mais je ne suis pas sûr que le droit de propriété à la veuve est implicite dans tous les cas, automatiquement. Tu te rappelles-tu? Le droit de propriété du terrain. Ben oui, c'est ça. Oui, oui, mais ça a l'air d'être comment est-ce qu'on appelle ça? Une jurisprudence. Un précédent, une jurisprudence légale. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est parce qu'il est mentionné aussi, Steph, là-dedans. Mais, donc, c'est ça. C'est pas clair. Je ne me rappelle plus, je vous avoue, je pourrais prendre le temps de vérifier au niveau de... Est-ce qu'automatiquement, la veuve était propriétaire des terres ou non? Faudrait que je le vérifie de ce côté-là. Mais c'est clair qu'il y avait l'idée de dire que, bon, ben, lorsqu'elle allait être prise comme épouse, elle allait être placée sous la protection de l'époux, ça, c'est clair. Puis les biens venaient avec. Oui, monsieur? Oui. Oui, oui, c'est ça. Et l'idée, c'était de garder l'héritage dans la famille, d'accord? Parce qu'évidemment, si un autre homme qui n'est pas de la famille va prendre cette épouse-là, et cet héritage-là, puis la descendance la descendance de celui qui est décédé disparaît.
J'ai une note ici pour le droit de rachat. faisait ainsi office de défenseur du pauvre.
Oui.
Tu l'as vendu.
Ça, c'est clair. Le... Bien, c'est ça. C'est le lien avec l'épouse dans Ruth, il y en a un. Fait que, il aurait juste fallu que je vérifie ça avant. OK, je continue. Donc, quelqu'un qui voudrait nous résumer ce qui va se passer dans le récit de Ruth. Comment est-ce que ça va se passer, cette histoire-là? Quelqu'un qui veut nous résumer ça. Comment ça va s'opérer? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la grâce que Dieu va faire à Ruth à travers Boaz? Juste nous résumer le récit. Décide de la. Oui. Les gars aussi.
Fait que finalement, Ruth s'offre, je pense.
Oui.
Boaz, le droit de l'achat.
Oui.
Il y avait quelqu'un qui arrivait avant.
Qui précédait.
Que Boaz va voir avec les anciens et dit écoute, tu as le droit de l'achat avant moi. Si tu ne le fais pas, je vais le faire. Et l'autre se désiste. Puis c'est finalement Boaz qui.
Voyant qu'il y avait une épouse qui est. Qui venait avec à ce moment-là. Juste un instant. Oui, monsieur. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on mentionnait tout à l'heure l'idée que c'est la grâce envers les étrangers, la grâce envers les peuples païens. Oui, Stéphane. Oui, c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'elles sont complètement séparées. Je vais lire là-dessus cette semaine, là, mais dans le sens que, culturellement, est-ce que ça aurait été acceptable de prendre juste la terre et de dire, bien, la veuve est laissée seule, tu comprends? C'est ça.
Mais il aurait pu avoir une terre sans veuve.
Oui, absolument. 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 La question, c'est vraiment lorsqu'il y a une veuve qui est là et qui a des droits. OK. Oui. Oui, allez-y. C'est bon. C'est bon. Alors, tout commence avec le choix de Ruth. D'accord? Tout commence avec le choix de Ruth de ne pas abandonner sa belle-mère et de se tourner vers l'Éternel puis de dire « ça va être mon Dieu ». Et Dieu va honorer ça en lui faisant cette grâce-là. Elle aurait pu juste retourner en Israël puis juste adopter Dieu puis continuer à être pauvre. Puis son histoire aurait pu s'arrêter là. Je veux dire, ça aurait déjà été une belle histoire. Vous auriez eu une Moabite qui adorait des idoles et qui maintenant vit pauvrement en Israël. Ça n'aurait pas été une mauvaise histoire du tout. Mais on voit la grâce de Dieu se manifester en ce que non seulement il va y avoir Boaz, mais elle va rentrer dans la lignée de David, dans la lignée du Messie. D'accord? Et donc ça va suivre par la suite, ça va aller plus loin encore. Quelles sont les applications, les leçons qu'on peut tirer, premièrement, de ce livre-là, le livre de Ruth? Au niveau de notre compréhension du salut, premièrement, quelles seraient les conclusions à tirer au niveau de notre compréhension de l'Évangile du salut? Le salut est offert aux païens. Dieu fait grâce. Et Boaz est un type, à mon avis, de ce que Christ va faire. D'accord? Boaz est un type de l'œuvre que Christ va accomplir lui-même, dans le sens que Christ est venu vers des nations étrangères, celles qui n'étaient pas son peuple. Et puis, il l'a pris sous sa protection pour qu'elle soit son peuple. Il l'a couvert littéralement. D'accord? Et donc, Boaz est un type de l'œuvre que Christ accomplit à notre égard, à nous. Et donc, on a juste à se tourner vers l'Éternel, puis à espérer dans l'Éternel pour que Dieu vienne nous couvrir de sa grâce. Et on devient héritier. Moi qui n'étais pas du peuple d'Israël, je suis héritier, co-héritier avec Christ. Et Ruth entre dans la lignée royale de David, dans la lignée du Messie. Dans un sens, elle est promue à ce qu'il y a de plus honorable dans l'histoire d'Israël, puisqu'elle fait partie de la lignée même de Jésus-Christ. Ça, c'est tous des éléments qui nous parlent justement de la grâce, qui nous parlent de la manière que Dieu nous aime et ce que Dieu a fait en notre faveur envers nous, tout simplement en nous tournant vers lui. D'autres choses que vous voyez dans le livre de Ruth. Pardon? Dieu fait grâce au cœur humble. Oui. Aux cœurs qui sont fidèles. Fait que vous avez Ruth qui n'avait pas toutes des notions pour l'Évangile, comprendre l'Évangile, tout ça. Elle a simplement usé de ses principes pour se dire « Non, je vais être fidèle à toi, puis ton Dieu, ça va être mon Dieu. » Et elle avait la liberté à ce moment-là, puisque sa belle-mère lui offrait la liberté. Elle aurait été reçue dans sa famille, d'accord? Puis elle aurait pu aller se remarier à ce moment-là. Mais elle a décidé de faire ce qui était bien, ce qui était juste, et Dieu va honorer cela. Si vous voulez aller à la dernière page des notes, quelques leçons qu'on peut tirer, des applications qu'on peut tirer. En fait, l'avant-dernière page, application. Le peuple d'Israël avait laissé vivre certains peuples au milieu d'eux qui sont devenus une pierre d'achoppement par leur débauche et leur idolâtrie. Est-ce qu'il y a des domaines de ma vie où je n'ai pas tout livré à une entière destruction par rapport au péché? Et l'idée, vraiment, c'est dans l'intention. L'idée, c'est, on connaît la dynamique dans notre cœur, on connaît l'attitude du cœur lorsqu'on ne veut pas laisser aller une idole. Vous savez, le moment où Dieu te montre que tu as une idole dans ta vie, et des fois, ça peut être des choses très saines, mais qui sont devenues une idole, qui prennent la place de Dieu dans notre cœur. Et le moment où tu vois, que tu prends conscience, le Saint-Esprit t'aide à voir, c'est une idole dans ta vie, mais tu ne veux pas le laisser aller. Tu ne veux pas laisser ça partir. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qu'on accompagne pour les aider à, et je l'ai vécu dans ma propre vie, il y a des gens qu'on accompagne aussi pour les aider à être libérés de certains péchés. Et il y a ce combat-là. Et la question première, c'est est-ce que je suis prêt à laisser partir tout ça? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est inviter l'Éternel à faire le ménage en entier dans le temps? Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça avec Dieu? C'est parce que Dieu nous a donné un premier commandement qui est celui de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et donc, Dieu ne veut pas d'un amour partagé. Dieu ne tolère pas un amour partagé. Et ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas aimer deux dieux en même temps. Et lorsque je me comporte comme Israël et que j'entreprends de faire le ménage, j'essaie en fin de compte de contenir le péché en disant, ben regarde, je vais me débarrasser des plus grosses idoles. C'est vrai, ça a de la foule sur le terrain en avant, mais je vais me garder une petite pièce, tu sais, dans ma maison, un petit garde-robe où je vais garder quelques idoles, puis de temps en temps, je vais y aller, puis je me donne une contenance. Et beaucoup, beaucoup de chrétiens vont faire des années comme ça. Des années comme ça. Le christianisme les a aidés à se libérer de plein de grosses affaires qui faisaient qu'il y avait de l'air fou. Puis, ils se sont donné une contenance grâce au christianisme, d'accord? Mais le problème avec ça, c'est que l'idole, elle vient puis elle ravage le cœur pareil. Ces gens-là, ça va faire des chrétiens amers parfois. Ça va faire des chrétiens qui, devant les épreuves, « Oups, tu vois la nature qui sort. » Dans le fond, il était plus attaché aux choses de la terre que vraiment d'être attaché à Dieu. Ça reste là. Et lorsque tu commences à travailler avec eux, tu te rends compte que ce n'est pas des gens qui reviennent régulièrement à cette décision très, très claire de dire, « Seigneur, le temple entier de mon cœur, tu es ouvert. Fais le ménage chaque jour, Seigneur. » Maintenant, il y a des fois, il y a des choses pour lesquelles on est aveugle. On ne les voit pas. Ce n'est pas de celles-là que je parle. Comment je me comporte lorsque Dieu me les montre? Vous voyez? Et donc, ça, c'est une des leçons importantes à tirer du livre des juges. Une autre leçon importante, évidemment, c'est toute cette question-là du leadership. Le leadership est déterminant. Il est déterminant dans ta vie. Alors, est-ce qu'il y a des leaders qui sont une inspiration dans ta vie, qui t'aident à avancer? C'est des gens avec qui tu développes une relation, ils t'inspirent, ils t'aident à garder le pas droit en avant. Moi, j'en ai dans ma vie. D'accord? J'en ai dans l'Église ici, puis j'en ai à l'extérieur de l'Église aussi. Et ces leaders-là sont importants dans ma vie, parce qu'il y a des moments d'errance aussi. Et je veux jouer ce rôle-là auprès des gens autour de moi. Je veux être ce leader-là auprès des gens autour de moi qui va chercher à être droit. Et la consécration du leader va déterminer beaucoup la consécration des gens qui le suivent. On le voit dans le livre des juges. Il y avait des juges qui étaient plus ou moins recommandables, plus ou moins consacrés à l'Éternel. Et ça a un impact, ça aussi. D'accord? Il y avait une autre leçon qui me passait par la tête qui est importante, là. Mais évidemment, c'est ça, le livre des juges nous parle de la grâce de Dieu. Et donc, il n'y a pas... Je veux dire, après avoir lu le livre des juges, est-ce que vraiment tu peux te rendre à un point dans ta vie où tu dis « Dieu ne peut plus me faire grâce » Est-ce que ça se peut que tu arrives à un point où tu dis « Dieu ne peut plus me faire grâce, il n'y aura pas de retour pour moi » Pas après avoir lu le livre des juges. Dieu fait grâce, Dieu est un Dieu gracieux, Dieu est un Dieu fidèle à son alliance, Dieu est un Dieu qui délivre. C'est ce Dieu-là que je veux connaître et que je veux garder dans mon cœur. Vous avez la grâce qui est là, vous n'avez pas tout l'Évangile parce qu'on n'a pas Christ, mais la grâce est très présente et manifeste. Dans le livre de Ruth, bien évidemment, on voit cette grâce que Dieu fait envers les nations. Et ces nations-là sont appelées à faire entièrement partie du peuple de Dieu. Fait que dans notre vision à nous, je n'ai pas à me voir comme quelqu'un qui fait moins partie du peuple de Dieu que si j'étais juif, par exemple. Ah non, Ruth fait partie de la lignée royale, la lignée du Messie. Et on voit encore une fois la manifestation de la grâce de Dieu envers Ruth. Ça nous aide à saisir l'Évangile, saisir ce que Christ a fait à notre égard, envers nous. Lorsqu'il a exercé ce droit-là, et il la prend pour épouse. C'est bon? On va s'arrêter ici avec un mot de prière. Mais Père éternel, je veux te remercier pour ces deux beaux livres, Seigneur. Seigneur, aide-nous à saisir ta grâce. Aide-nous à saisir ce que ta grâce commande aussi comme choix dans nos vies pour nous consacrer entièrement. Père, aide-moi toujours à avoir une absolue intolérance envers les idoles dans mon cœur et dans ma vie. Afin de marcher, Seigneur, sous ta bénédiction, sous ta grâce, en communion intime avec toi, en laissant ton Esprit Saint œuvrer toujours comme il le désire dans mon cœur, Seigneur. Père, je te prie pour tous et chacun ici ce matin. Ceux et celles qui ont des idoles dans leur vie, qu'ils gardent comme un endroit où se reposer, comme un rêve à chérir, comme quelque chose à convoiter. Sans consacrer leur cœur entièrement, Seigneur. Parle-leur. Montre-leur, Seigneur, qu'ils courent à leur malheur. Je prie, Père, pour chacun d'entre nous, dans les domaines où nous avons exercé un leadership, Seigneur. Aide-nous, Père, à être des leaders consacrés qui enseignons à la prochaine génération, qui communiquons à la prochaine génération la gloire de ton Évangile, la grandeur de notre Dieu, la beauté de sa grâce, le bonheur qu'il y a à marcher dans la sainteté à sa suite. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'adorer parce que tu es gracieux, parce que tu es bon. Tu es bon envers Israël, tu es bon envers Ruth, tu es bon envers l'étranger, Seigneur, qui se tourne vers toi. Et tu ne prives aucun de ceux que tu sauves, Seigneur, du plus bel héritage. Sois béni, Seigneur Jésus. Seigneur, c'était évident dans cette époque des juges qu'un véritable roi devait venir. Et comme on va le voir avec les rois, qu'un roi plus grand que ces rois-là devait venir, Seigneur, et tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. C'est toi que nous voulons suivre, Seigneur, et tu ne feras pas défaut. Parce que ton cœur à toi est sans partage. Il est entièrement consacré à la gloire de ton Père. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. À la fin du document, vous avez les lectures en préparation pour la semaine prochaine. D'accord? La semaine prochaine, on va être dans Samuel. On vous a mis simplement les